Bonjour, vous écoutez RFI, c'est le journal comme à Paris. Il est 21h à Navi Sad.
Théo Renaudon.
À la une de l'actualité, des dizaines de milliers de Serbes ont manifesté ce samedi contre la corruption de leurs dirigeants. Un mouvement initié par des étudiants, mais élargi à tout un pan de la société serbe, nous le verrons. Scène de liesse à Gaza et en Cisjordanie, 180 prisonniers palestiniens ont été libérés contre 3 otages israéliens. Et puis ne rien acheter dans les supermarchés, les cafés, les restaurants pour protester contre l'inflation. Les Croates tentent le coup, explication en fin de journal. Des dizaines de milliers d'étudiants bloquent ou ont bloqué des ponts à Novi Sad, c'est en Serbie. Ils manifestent 3 mois jour pour jour après l'effondrement meurtrier du toit d'une gare de la ville. Symptôme, selon eux, de la corruption du pouvoir en place contre laquelle ils manifestent. Se sont joints à eux de nombreux autres Serbes de toutes professions. Écoutez notre correspondant Laurent Rouille. Il était en direct de l'une de ces manifestations tout à l'heure.
C'est vraiment toutes les classes sociales de la Serbie, les retraités, les agriculteurs, les avocats, les médecins, les professeurs, les simples citoyens qui sont là dans la rue aujourd'hui pour protester dans une ambiance bon enfant. Nous sommes vraiment face à un mouvement non-violent total. Il n'y a en effet aucun incident à part les quelques incidents qui avaient été déclenchés les semaines passées par des provocateurs du parti au pouvoir, le SNS, et qui avaient été immédiatement mentionnés et qui avaient occasionné des arrestations. Donc c'est la deuxième manifestation de 24 heures en Serbie en un peu plus d'une semaine. La mobilisation est effectivement très forte. Le Premier ministre a déjà démissionné. Pour l'instant, le président refuse de former un gouvernement technique, ce qui est la demande des manifestants. Nous sommes toujours dans une situation de bras de fer, même s'il semblerait que la population soit en passe de l'emporter.
Laurent Rouille, ils sont apparus amaigris, joues creusées, visages marqués par leur détention. 180 Palestiniens, prisonniers d'Israël, ont été libérés ce samedi. Ils ont pour la plupart rejoint des territoires palestiniens en bus avant d'être accueillis par des scènes de liesse de la population. Libération qui s'effectue dans le cadre du récent cessez-le-feu entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. En échange de ces libérations, le Hamas a relâché 3 otages israéliens ce samedi, 4e échange du genre depuis le 19 janvier. Le monde compte sur vous pour la paix au Moyen-Orient. Les mots du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi à Donald Trump ce samedi. Dans un communiqué, il précise que les 2 chefs d'État se sont entretenus par téléphone. Le chef d'État égyptien souligne que la communauté internationale, je cite, compte sur le président américain pour parvenir à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. L'armée russe affirme avoir conquis un village ukrainien proche de la ville de Torest dans la région de Donetsk, province où les troupes de Kiev sont en grande difficulté. La nuit dernière, des frappes ont fait au moins 11 morts dans le pays. Et à quelques jours du 3e anniversaire de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, toutes les entreprises occidentales ne se sont pas encore retirées de Russie, en partie parce qu'il est difficile de vendre ce que l'on appelle des actifs, Nathanaël Vitran.
Goldman Sachs peut pousser un soupir de soulagement. La banque américaine a reçu le feu vert ce vendredi de Vladimir Poutine pour la vente de tous ses actifs en Russie à un fonds d'investissement arménien. Les responsables de la banque avaient pourtant annoncé leur intention de quitter le pays dès le mois de mars 2022, quelques jours seulement après l'entrée des troupes russes sur le sol ukrainien. Mais Goldman Sachs, comme de nombreuses entreprises occidentales, s'est retrouvée prise entre le marteau et l'enclume, entre les sanctions prises par les alliés de Kiev à l'encontre de Moscou et les contre-sanctions décidées par le Kremlin pour punir les entreprises qui chercheraient à partir en leur imposant une taxe de sortie exorbitante. Toute transaction supérieure à 50 milliards de roubles, soit 480 millions d'euros environ, doit de toute façon être approuvée par Vladimir Poutine en personne. Pour les entreprises qui partent, cela revient à accepter de vendre à perte pour moitié environ de la valeur réelle de leurs actifs, à condition encore de trouver un acheteur. Plus tôt cette semaine, la banque suisse ING avait elle aussi annoncé son départ de Russie, estimant à 700 millions d'euros l'impact négatif de cette transaction sur ses résultats.
Plus de 50 morts dans le bombardement d'un marché au Soudan dans la banlieue de la capitale Khartoum. Frappes imputées aux forces de soutien rapide, les FSR, des forces paramilitaires qui perdent du terrain face à l'armée régulière dans la capitale depuis le début de l'année. Les forces de soutien rapide ont perdu plusieurs de leurs bastions. Leur chef a juré de lancer une contre-offensive vendredi dans une rare allocution. Large attaque de séparatistes au Baloutchistan, province pakistanaise. 18 morts paramilitaires rattachés au pouvoir central. Des secouristes ont également été tués. Le Baloutchistan, c'est ce territoire ethnique à cheval sur plusieurs pays, dont le Pakistan. La province Baloutch est là-bas la plus vaste du pays, mais aussi la plus pauvre, en dépit de ressources gazières, ressources revendiquées entre autres par ces séparatistes qui attaquent régulièrement les forces pakistanaises, forces de sécurité pakistanaises, qui ont riposté à cette attaque. Ils ont abattu 12 Baloutches considérés comme terroristes par Islamabad. La protestation par l'arrêt de la consommation, ça se passe en Croatie, où un mouvement de boycott se poursuit après une première mobilisation très suivie la semaine dernière. Les habitants sont de nouveau appelés depuis vendredi à ne rien acheter, dans les supermarchés, les cafés, les restaurants, les sites internet ou encore les stations essence. Objectif, protester contre l'inflation, plus 30% dans l'alimentaire en 3 ans. Et la mobilisation commence à porter ses fruits, se réjouit Eugene Kemelen, porte-parole d'une association de consommateurs croates organisatrice de ce boycott.
C'est la première fois qu'un tel mouvement de boycott était organisé en Croatie. Et c'est vraiment un succès, car cela montre que les gens ont un pouvoir face au gouvernement et face à la grande distribution. Suite à la première journée de boycott la semaine dernière, certains prix ont déjà baissé. Une chaîne de supermarchés a annoncé qu'elle allait baisser les prix de 1000 produits. On verra dans quelques jours le résultat de la suite du boycott, mais les chiffres officiels qu'on a reçus montre qu'il y a eu ce vendredi 31% d'achats en moins par rapport à une journée normale. Notre but est qu'il y ait un meilleur pouvoir d'achat par rapport au salaire, que les gens n'aient plus l'angoisse en entrant dans un magasin de savoir s'ils auront assez pour s'acheter à manger. Bref, que les gens puissent mener une vie normale.
Propos recueillis par Justine Fontaine du service économie de RFI. L'ancien président allemand et patron du FMI, Horst Köhler est mort ce samedi. Il était malade et avait 81 ans. Direction la Belgique, pays de la bande dessinée. Pour finir ce journal, zoom sur l'exposition En Chine avec Tintin. Voyage dans l'album culte du Lotus Bleu datant de 1936. Une version colorisée vient d'être publiée. L'exposition retrace la genèse de la création de cet album, mais aussi et surtout l'amitié entre l'auteur belge Hergé et l'artiste chinois Chang Chung-jen, sans qui rien n'aurait été possible. Jean-Jacques Herry.
La Chine de Tintin, elle est née d'une amitié. Lorsqu'en 1934 à Bruxelles, Hergé rencontre Chang Chung-jen, un étudiant chinois aux Beaux-Arts, avec qui il va travailler sur son nouvel album, raconte Marc Van Acter, guide pour le musée Hergé.
Chaque dimanche, Chang se rendait au domicile d'Hergé et lui parlait de l'actualité, des événements, de comment les Chinois vivaient l'invasion japonaise. Chang a même offert un livre sur la technique d'apprentissage du dessin en Asie. Hergé a pu s'imprégner de ce trait et le retranscrire dans ses planches.
Et ainsi s'esquisse peu à peu le Lotus Bleu, dont les planches originales en noir et blanc et grand format sont exposées pour la première fois, accompagnées par les photos et les livres qui ont aidé Hergé à dessiner un pays qu'il ne connaissait pas, pour le plus grand bonheur de Bernard.
Le fait de travailler avec Chang, ça lui a permis d'aller plus profond dans un récit plus authentique, plus instruit. Il y a des cases du Lotus Bleu qui sont des réelles estampes. Quand j'étais petit, ça m'a vraiment fait rêver, ça m'a vraiment fait voyager.
Un pari réussi, à en croire Guo, étudiante chinoise.
Oui, les Chinois dessine vraiment comme ça. C'est une œuvre magnifique.
Comme Tintin qui, sur le papier, finit par retrouver Chang au Tibet. Dans la vraie vie, Hergé renouera avec son ami en 1981 à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, sous l'œil des caméras, 45 ans après la sortie du Lotus Bleu. Jean-Jacques Herry, Louvain-la-Neuve, RFI.
En France, côté foot, c'était la 20e journée de Ligue 1. Le PSG a renversé Brest 5-2, triplé 12 joueurs français, Ousmane Dembélé d'origine malienne. En tennis, toujours des Français, le Français Hugo Humbert, 15e joueur mondial, a offert le premier point à la France. Il a battu en Coupe Davis, il a battu à domicile le Brésilien João Fonseca, 99e joueur mondial, 7-5, 6-3 après 1h25 de jeu. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Dans moins d'une heure maintenant, le prochain rendez-vous de l'actualité. Mais vous pouvez suivre l'actualité mondiale sur notre site rfi.fr.